Un. Avant la pause, on jasait de cette situation, le fameux plan qui serait préparé, qui serait sur la table, qu'on ne connaît pas, nous, comme un des mortels, le plan pour les négociations et les menaces Donald Trump vis-à-vis la taxation, donc le plan des différentes provinces. On sait que c'est une coalition des premiers ministres des différentes provinces, moins l'Alberta, moins Daniel Smith. On en a jasé du côté économique de la chose avec Gabriel Giguère, analyste politique pour l'Institut économique de Montréal. On poursuit la discussion, puis peut-être plus se pencher sur la stratégie politique de la chose et la situation politique de la chose avec Marc-André Leclerc, chroniqueur au Journal de Québec, spécialiste en affaires publiques et en communication stratégique. Il est au bout du fil. Marc-André, bon matin.
Bon matin.
Comme toujours, merci d'être avec nous, cher ami.
Ça fait plaisir.
Marc-André, à quel point on est rendu plus faible dans ces négociations-là et le fameux plan qu'on ne connaît pas si on soustrait l'Alberta et son pétrole?
Ben, c'est sûr que le gros morceau là, où on peut faire mal aux Américains, c'est justement c'est d'inclure tout ce qui est ressources énergétique là. Et c'est sûr que le pétrole, le gaz naturel joue un rôle extrêmement important là-dedans. Je pense qu'il faut comprendre d'hier, tu sais, qu'on entend tous les M. Trudeau, les premiers ministres provinciaux nous dire que tout est sur la table, même si on nous dit que tout est sur la table, c'est certain, par exemple, au Québec, François Legault, lui, il n'a pas le goût, c'est de briser les ententes qu'on a avec ces deux États américains. Je suis pas sûr qu'il veut changer les prix pour lesquels on s'est entendu sur des contrats qui vont aller de l'avant là à la fin de l'année 2025 et en 2026. Fait que c'est comme de dire, oui, tout était sur la table, mais je suis convaincu que M. Legault hier, avec ses homologues, ses collègues, bien sûr, a poussé pour pas qu'on se rende là. Et c'est sûr que probablement ce matin, il se croise les doigts pour pas qu'on se rende à cette menace-là. Parce que c'est sûr que ça aurait des impacts, autant ici au Québec sur l'hydroélectricité, autant également du côté du pétrole et du gaz, parce qu'il y a quand même des conséquences là, si jamais on va de l'avant en coupant le robinet ou en imposant des tarifs à notre tour sur ces produits-là, ce qui ferait en sorte, bien sûr, que, par exemple, au Canada, il y a la ligne 9 qui vient en Ontario et au Québec pour distribuer le gaz et le pétrole, mais la ligne 9 prend un peu son bout dans la ligne 5 qui passe dans le Michigan. Là. Fait, si on veut aller là, dans une guerre énergétique, c'est sûr qu'il peut avoir des conséquences. Il faut juste être prêt à faire face à ces conséquences-là.
Marc-André, de ce que tu entends, de ce que tu lis, de ton analyse à toi, le 20 janvier, là, ça en vient très, très vite. On est le 16 janvier en ce moment. Est-ce qu'on... Selon ton opinion de ce que tu entends, est-ce qu'on va pouvoir éviter le pire?
Il va y avoir des tarifs. Ça, c'est presque inévitable. Puis lorsqu'on entend les premiers ministres et différentes informations du côté d'Ottawa, ça, tout le monde s'attend à ça. Hier, ce qui était frappant, c'est les propos de l'ambassadrice là, du Canada aux États-Unis, Mme Hillman, qui disait que même si Ottawa présentait un plan là, de 1,3 milliard sur 6 ans pour renforcer la frontière, elle n'avait pas d'écho à savoir si ces mesures-là étaient assez satisfaisantes pour l'administration Trump. Donc, c'est pour ça qu'on se prépare pour le 20. Et clairement, ce que je peux vous dire, c'est que du côté d'Ottawa, bon, hier, il n'y a pas beaucoup de scénarios là qui ont été exposés là, durant la conférence de presse des premiers ministres avec M. Trudeau, mais clairement, on pourrait répondre rapidement là, avec certains tarifs sur certains produits peut-être plus un peu symboliques. On parle souvent du jus d'orange, par exemple, qui vient de l'État de la Floride. Donc, peut-être plus symbolique. Mais après ça, il y a tout un processus. Hein, et je suis allé revoir un peu ce qui avait été fait là lors de Trump 1, là, lorsque M. Trump avait également imposé des tarifs, exemple, sur l'aluminium canadien, sur l'acier canadien. Il y a tout un mécanisme là, de période de consultation. Donc, un scénario qui pourrait être envisageable, c'est une première ronde de tarifs également de notre côté qu'on impose sur des produits américains qui arrivent ici en sol canadien. Et après ça, repartir sur une deuxième liste, mais là, qui amènera une consultation. Et tout ça, à la fin, ça va peut-être vous faire un peu sourire. Lorsqu'on impose des tarifs, une surtaxe, ça prend la signature de la gouverneure générale. Donc, Mary Simon va devoir être impliquée dans le processus. Là, je regardais les papiers de 2018-2019 et Mme Simon doit être impliqué dans le processus.
Ah, le fameux trône. Marc-André, on le dit mi-blague, mi-sérieux depuis le début de l'émission avec « Il y a un plan, mais on connaît pas le plan ». C'est-tu normal que le grand public connaisse pas le plan ou dans une bonne stratégie de négociation, le Canada devrait dire à Donald Trump « Hey, regarde, c'est ça qui t'attend » pour justement donner un rapport de force au Canada?
Ben, il y a des tiraillements du côté d'Ottawa. C'est clair actuellement, à savoir, même certaines personnes dans les derniers jours me disaient que certains poussaient à l'interne, tu sais, qu'on mette déjà, tu sais, qu'on annonce les tarifs avant le 20 janvier, là. Tu sais, ce qu'on sait pas, et M. Trump, tu sais, lorsqu'on lit différents médias américains, même ici canadiens, ne semble pas vouloir prendre le même modus operandi, là, que la dernière fois. Il veut peut-être y aller de façon graduelle, à chaque mois, 2, 3, 4, 5 % de façon graduelle. Okay. Il y a tout peut-être un mécanisme qu'on essaie de mettre en place du côté américain pour que le consommateur américain, et ça, là, ça va être intéressant de voir comment M. Trump et son administration peuvent mettre ça en place, pour que le consommateur américain ne ressente pas l'impact d'une hausse des tarifs sur les produits canadiens. Et ça fait en sorte que si c'est le cas, ben c'est sûr que ça enlève un argument de poids là à tous les politiciens canadiens qui font des relations avec les États-Unis puis de dire, ben regardez, là, tu sais, si vous augmentez, si vous mettez un tarif sur l'aluminium canadien, ben vous n'aurez pas le choix d'en payer la note à la fin sur vos factures comme consommateur. Mais là, si on est capable de faire un tour de passe-passe, entre guillemets, puis que l'administration Trump fédérale américaine est capable de faire éviter les augmentations de coûts aux consommateurs, c'est sûr que ça peut changer la donne.
Là, on a vu hier que la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, était contre le plan proposé en ce moment parce que ça affecterait beaucoup l'Alberta via le pétrole. Qu'est-ce qui peut arriver avec l'Alberta? T'sais, à la blague, il y en a qui disent « Bon, ben l'Alberta va se séparer avant le Québec. L'Alberta va rejoindre les États-Unis finalement comme 51e État. » Parce que là, ce que Danielle Smith dit, c'est « Le fédéral embarque ses champs de compétences. Ça va créer une crise d'unité nationale. » Qu'est-ce qui va se passer si l'Alberta continue de dire au Canada « Non, nous autres, on n'embarque pas. »
Bien, où le bas blesse, c'est que présentement, tu sais, comme on disait tout à l'heure, quand on dit, là, quand les premiers ministres hier disaient « Tout est sur la table », bien, ça, c'est une position de négociation, tu sais, avec les États-Unis puis avec M. Trump. Tu veux pas commencer à arriver là puis dire « Ouais, bien, tu sais, on est prêt à prendre des mesures, mais ça, on va les exercer d'avance, tu sais. » Même dans le pire des scénarios, est-ce que le gouvernement fédéral et les provinces pousseraient justement pour qu'on mette des tarifs sur le pétrole canadien qui s'en va aux États-Unis? C'est probablement le dernier des 158 scénarios qui sont possibles actuellement. Et c'est la même chose avec M. Legault lorsqu'il parlait hier dans ses entrevues, d'après rencontre, de l'hydroélectricité. M. Legault, au même moment un peu où il nous disait que tout était sur la table, tu sais, sa ministre d'énergie, Mme Fréchet, disait, mais non, on peut pas revoir ces contrats-là, on perdrait notre nom, tout ça, tu sais. Fait que même dans la tête de M. Legault, fait que dans le fond, il y a deux stratégies ici, tu sais. Il y a M. Legault, lui, qui veut pas, sans doute, il veut pas les tarifs, mais deux, il veut pas non plus qu'on aille surimposer des tarifs ou renoncer aux ententes qu'on a en hydroélectricité avec l'État de New York, par exemple. Mais lui, il est prêt, entre guillemets, à jouer le jeu et à dire que tout est sur la table. Tandis que Mme Smith, qui n'était pas en présentiel hier à la rencontre, était là en virtuel, elle était en vacances du côté du Panama, elle n'a pas voulu jouer ce jeu-là de dire tout est sur la table. Elle aurait voulu qu'on dise tout est sur la table, sauf le pétrole de l'Alberta. Fait que c'est, tu sais, M. Legault et Mme Smith, dans le fond, ils veulent la même chose. Ils veulent pas que leurs industries primaires soient affectées, puis ils veulent protéger leur communauté. Cependant, M. Legault, hier, lui, était capable de faire le pas d'unité, de dire, oui, on peut mettre tout sur la table. Mais c'est sûr qu'il va y avoir différentes rencontres entre le fédéral et les provinces de suivi dans les prochaines semaines. C'est sûr que si, sur la table, tout le monde dit, ouais, mais là, mon cher François, faut que tu fasses A, B, C, D avec l'hydroélectricité que tu envoies aux États-Unis. C'est sûr qu'il va même être plus réticent ou vraiment parce que là, les tarifs qui vont être imposés par Donald Trump vont être très salés, là. Fait que Et le Québec et l'Alberta sont sur le fond. Ils veulent aussi protéger leur économie, ouais. protéger leurs ressources naturelles. Cependant, M. Legault, lui, a fait le pas de plus en disant tout est sur la table, tandis que Mme Smith, elle, n'a pas voulu aller là.
Hey, Marc-André, Donald Trump, on le sait, a sa casquette. Make America oui. great again. Doug Ford a oui. maintenant sa casquette. Canada is not for sale. Qu'est-ce que tu penses de la guerre des casquettes?
Ben, c'est excellent. C'est excellent de M. Ford d'arriver hier. Il a l'affaire. C'est vraiment lui. Tu sais qu'on dit le vide présentement avec la situation chaotique à Ottawa. On en a parlé ensemble au cours des derniers jours. Mais oui. c'est vraiment lui qui est au devant des coups, qui est là, qui répond du tac au tac. Et cette casquette-là est en vente. Hein. Les gens peuvent aller là, sur c'est une compagnie d'Ottawa. Sur le web, ça se trouve facilement.
Oui, c'est un vendeur populaire aussi.
Oui, et il n'y a pas une casquette bleue. Hein. Il y a un modèle aussi qui existe, Canada is not for sale. En rouge, j'ai pris le bleu pour un peu prendre une distance entre narguer M. Trump. Mm-hmm. Il joue les codes présentement qui sont en place. Il fait bien. Même hier, il a pris, bon, comme président du Conseil de la Fédération, là, tout de suite après M. Trudeau, point de presse, c'est lui qui a pris la parole. Il a bien placé les choses. Il fait du bon boulot présentement. Et je pense que c'est un coup de génie hier de lui et de son équipe là, d'arriver comme ça à cette rencontre-là, en vraiment là plaçant quand même une phrase, quelques mots sans équivoque là, sur sa casquette bleue.
Marc-André, en terminant, j'ai une double question pour toi oui. et ça concerne la course à la chefferie du oui. Parti libéral du Canada. Un, es-tu surpris qu'il n'y ait pas de candidat qui provient du Québec? Et mm-hmm. deux, es-tu surpris de voir Mark Carney, Chrystia Freeland qui vont aller se batailler un contre l'autre alors que Mark Carney est le parrain d'un enfant de Chrystia ouais. Freeland?
Ben, sur le nombre de candidats, autant tu sais, Québec et hors Québec, c'est pas surprenant. Là. Je veux dire, de voir que c'est une course qui est extrêmement rapide, on va voter le 9 mars, les candidatures doivent être déposées avant le 23, donc d'ici une semaine, le 23 janvier. Il y a 350 000 $ là, en différents échéanciers entre le 23 janvier et le 17 février. Donc, c'est extrêmement rapide. C'est sûr que pour des candidats québécois comme Mélanie Joly et François-Philippe Champagne, ça aurait pris une course beaucoup plus longue là, pour se faire valoir, se faire connaître. Ils ont pas, ces gens-là ont des bases au sein du Parti libéral mm-hmm. du Canada, mais auraient eu besoin beaucoup plus de temps pour aller de l'avant. Donc, tout ça nous fait en sorte qu'on se dirige vers le duel.
Oui, le fameux duel Carney-Freeland.
Oui, effectivement. Tu sais, M. Carney est le parrain là, des enfants de Mme Freeland. Fait que c'est sûr que ça risque de compliquer peut-être le prochain parti de Pâques. Là. mais bon, est-ce que à la fin... Moi, on me disait qu'ils ne se parlaient pas présentement, mais à la fin, est-ce que l'un, c'est peu importe qui remporte, est-ce ouais. que l'autre va se rallier? Peut-être que ça peut aider ça. Là, ce qu'on va surveiller aujourd'hui, c'est l'annonce de M. Carney du côté de Edmonton en Alberta. Également, ce matin, là, c'est sorti que Mme Freeland, qui, elle, va s'annoncer, on nous dit, d'ici lundi, annoncerait, et là, ça, j'ai hâte de voir ça, qu'elle devient chef, elle mettrait fin à la taxe sur le carbone.
Mm-hmm, okay.
Donc, c'est tout qu'un revirement de situation pour Mme Freeland. On va voir comment ce que M. Carney va faire. Mais c'est sûr que ça va faire sourire plusieurs personnes quand les libéraux, un, l'ont mis en place. Mme Freeland a mis la taxe sur le carbone dans plusieurs énoncés économiques, dans plusieurs budgets. Oui. Ils ont attaqué à multiples reprises les conservateurs des anti-climat, des climato-sceptiques parce qu'ils étaient contre la taxe sur le carbone. Et là, c'est eux, pour essayer de sauver les meubles, qui vont revenir sur cette wow. position-là forte du Parti libéral. Tu sais, des fois, quand on dit en politique qu'on est prêt à tout pour gagner, là, pour remporter, pour ouais. sauver les meubles, ça sent ça présentement au PLC. Là.
Très intéressant à suivre. Marc-André Leclerc, chroniqueur au Journal de Québec, spécialiste en affaires publiques et en communication stratégique. On adore jaser politique avec lui. Marc-André, merci infiniment. Toujours un plaisir.
Hey, merci à vous autres. Bonne journée.
À bientôt. On a fait dans la dernière heure là, pas mal ouais. le tour autant du côté politique qu'économique de cette décision-là de l'Alberta et du pétrole albertain.
Puis je retiens que même en politique, c'est comme quand j'explique à mes enfants comment combattre l'intimidation à l'école.
Okay.
J'ai toujours à mes enfants, pour combattre l'intimidation à l'école, il faut que tu fasses semblant que tu es le plus tough de la gang. Puis comme ça, personne ne va venir t'écœurer. Ben, c'est ce que François Legault fait présentement. Il ne veut pas réouvrir les ententes sur l'électricité, mais il fait semblant qu'il est vrai. Il est le tough.
Il est
Trump vient-t'en, je tu l'auras pas, mon électricité. Mais dans le fond, il dit, j'espère qu'ils s'en viendront pas.
Viens pas me voir, viens pas me voir, viens pas me voir. Va voir dans une autre province. Check, check l'île du Prince-Édouard, là-bas. Oh, oui, dans le coin.
Check Danielle Smith, elle. Vas-y, va la voir.
C'est comme dans ma ligue simulée. Tu sais, je dis, je te l'échangerai pas, Brendan Hagel. Mais je suis peut-être prêt à l'échanger, là.
OK.
Tiens, ben ouais, OK. Ouais, OK.
Je te laisse décider quel exemple va être le meilleur.
C'est des négociations dans tous les types.
Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, OK, bon point. 8h01, il faut faire une courte pause. Ensuite, dans l'heure de 8, on a de la belle visite en studio. Jonathan Julien sera là, député de Charlebourg et ministre de la Capitale-Nationale. On a des dossiers chauds ici à Québec, que ce soit Saint-Roch, que ce soit le tramway, que ce soit nos prisons, nos infrastructures. On va jaser de tout ça. Vous êtes à Rage Against le matin. Bon jeudi.